Paris, livre 1, chapitre 4. Dans le vieux salon fané, un salon Louis XVI aux boiseries grises, Madame la comtesse de Quinsac était assise près de la cheminée, à sa place habituelle. Elle ressemblait singulièrement à son fils, la figure longue et noble, le menton un peu sévère, avec de beaux yeux encore, sous la neige des cheveux fins, coiffés à la mode surannée de sa jeunesse. Et dans sa froideur hautaine, elle savait être aimable, d'une bonne grâce parfaite. Elle reprit, après un long silence, avec un petit geste de la main, en s'adressant au marquis de Morigny, assis à l'autre coin de la cheminée, où il occupait le même fauteuil depuis tant d'années. « Ah, mon ami, vous avez bien raison. Le bon Dieu nous a oubliés dans une abominable époque. »
« Oui, nous avons passé à côté du bonheur, » dit-il lentement. « Et c'est votre faute. C'est sans doute la mienne aussi. »
Elle le fit taire d'un nouveau geste, avec un triste sourire. Et le silence retomba. Pas un bruit ne venait de la rue, dans ce sombre rez-de-chaussée, au fond de la cour d'un vieil hôtel situé rue Saint-Dominique, presque à l'angle de la rue de Bourgogne. Le marquis était un vieillard de 75 ans, de 9 ans plus âgé que la comtesse. Petit et sec, il avait pourtant grand air avec sa face rasée aux profondes rides correctes. Il appartenait à une des plus antiques familles de France et il restait un des derniers légitimistes sans espoir, très pur, très haut, gardant sa foi à la monarchie morte dans l'écroulement de tout. Sa fortune, estimée encore à des millions, se trouvait comme immobilisée par son refus de la faire fructifier, en la mettant au service des travaux du siècle. Et l'on savait qu'il avait aimé discrètement la comtesse, du vivant même de Monsieur de Quinsac, et qu'il s'était offert, après la mort de celui-ci, lorsque la veuve, âgée au plus de 40 ans, était venue se réfugier dans cet humide rez-de-chaussée, avec une 15 000 francs de rente, sauvés à grand-peine. Mais elle adorait son fils Gérard, alors dans sa 10e année, d'une santé délicate. Elle lui avait tout sacrifié, par une sorte de pudeur de mère, par une crainte superstitieuse de le perdre, si elle remettait une autre tendresse et un autre devoir dans sa vie. Et le marquis, qui s'était incliné, avait continué à l'adorer de toute son âme, lui faisant la cour comme au premier soir où il l'avait vue, empressé et discret, après un quart de siècle de fidélité absolue. Et il n'y avait rien eu entre eux, pas même un baiser. À la voir si triste, il craignit de lui avoir déplu. Il ajouta « Je vous aurais voulu plus heureuse, mais je n'ai pas su, et la faute n'en est sûrement qu'à moi. Est-ce que Gérard vous donnerait des inquiétudes ?» Elle dit non de la tête, puis tout haut « Tant que les choses resteront où elles en sont, nous ne saurions nous en plaindre, mon ami, puisque nous les avons acceptées. » Elle parlait de la liaison coupable de son fils avec la baronne du Villard. Toujours elle s'était montrée faible pour cet enfant qu'elle avait eu tant de peine à élever, sachant elle seule l'épuisement, la lamentable fin de race qui se cachait en lui, sous le beau dehors de sa mine fière. Elle tolérait sa paresse, son oisiveté, le dégoût d'homme de plaisir qui l'avait écarté des armes et de la diplomatie. Que de fois elle avait réparé des sottises, payé des petites dettes, en les taisant, en refusant l'aide pécuniaire du marquis, qui n'osait même plus offrir ses millions, tant elle s'entêtait à vivre héroïquement des débris de sa fortune. Et c'était ainsi qu'elle avait fini par fermer les yeux sur le scandale des amours de son fils, se doutant bien comment les choses s'étaient passées. par abandon, par inconscience, l'homme qui ne sait se reprendre, la femme qui le tient et le garde, en se donnant. Le marquis, lui, n'avait pardonné que le jour où Ève s'était faite chrétienne.
« Vous savez, mon ami, que Gérard est si bon, » reprit la comtesse. « C'est ce qui fait sa force et sa faiblesse. Comment voulez-vous que je le gronde quand il pleure avec moi ? Il se lassera de cette femme. »
Monsieur de Morigny hocha la tête. « Elle est encore très belle. Et puis, il y a la fille. Ce serait plus grave. Il l'épouserait. »
« Oh, la fille ! Une infirme ! » !»«
Oui, et vous entendez ce qu'on dirait ? Un Quinsac épousant un monstre pour ses millions !»
C'était leur terreur à tous deux. Ils n'ignoraient rien de ce qui se passait chez les Duvillard. L'amitié émue entre la disgraciée Camille et le beau Gérard, l'idylle attendrissante sous laquelle se cachait le plus atroce des drames. Et ils protestaient de toute leur indignation.
« Oh, ça, non, non, jamais !» déclara la comtesse. « Mon fils dans cette famille, non, jamais, jamais je ne donnerai mon autorisation !»
Justement, le général de Beauzonnet entra. Il adorait sa sœur. Il venait lui tenir compagnie les jours où elle recevait, car l'ancien cercle s'était peu à peu éclairci. Il n'était plus que quelques fidèles à se risquer dans ce salon gris et morne où l'on se serait cru à des milliers de lieues du Paris actuel. Tout de suite, pour l'égayer, il conta qu'il venait de déjeuner chez les Duvillard, nomma les convives, dit que Gérard était là. Il savait qu'il faisait plaisir à sa sœur en allant dans cette maison dont il lui rapportait des nouvelles, qu'il décrassait un peu par le grand honneur de sa présence. Et lui ne s'y ennuyait pas, gagné au siècle depuis longtemps, très accommodant sur tout ce qui n'était pas l'art militaire.
« Cette pauvre petite Camille adore Gérard » dit-il. « À table, elle le dévorait des yeux. »
Le marquis de Morigny intervint gravement.
Là est le danger.
Un mariage serait une chose absolument monstrueuse, à tous les points de vue.
Le général parut s'étonner.
Pourquoi donc ?
Elle n'est pas belle, mais si l'on n'épousait que les belles filles, et il y a aussi ces millions, notre cher enfant en serait quitte pour en faire un bon usage. Et puis, c'est vrai, il y a encore la liaison avec la mère. « Mon Dieu, l'aventure est si commune aujourd'hui !»
Révolté, le marquis eut un geste de souverain dégoût.
« Pourquoi discuter quand tout sombrait ? Que répondre à un Beauzonnet, au dernier vivant de cette illustre famille, lorsqu'il en arrivait à excuser les mœurs infâmes de la République, après avoir renié son roi et servi l'Empire, en s'attachant d'une passion fidèle à la fortune, à la mémoire de César ?
Mais la comtesse elle-même s'indignait.
« Oh, mon frère, que dites-vous ? Jamais je n'autoriserai un tel scandale. J'en faisais tout à l'heure le serment. »«
Ma sœur, ne jurez pas !»
s'écria le général. « Moi, je voudrais notre Gérard heureux, voilà tout. Et il faut bien convenir qu'il n'est pas bon à grand-chose. Qu'il ne se soit pas fait soldat, je le comprends. Car c'est un métier aujourd'hui perdu. Mais qu'il ne soit pas entré dans la diplomatie, qu'il n'ait pas accepté une occupation quelconque, je le comprends moins. Sans doute, il est beau de taper sur le temps actuel, de déclarer qu'un homme de notre monde ne saurait y faire une besogne propre. Seulement, il n'y a plus, au fond, que les paresseux qui disent cela. Et Gérard n'a qu'une excuse, son peu d'aptitude, son manque de volonté et de force. »
Des larmes étaient montées aux yeux de la mère. Elle tremblait toujours. Elle savait bien le mensonge de la façade.
Un coup de froid aurait emporté son fils, tout grand et solide qu'il paraissait. Et n'y avait-il pas là le symbole de cette noblesse, d'apparence encore si haute et si fière, et qui, au fond, n'était que cendre ?
Enfin, continua le général, il a 36 ans, il retombe sans cesse à votre charge. Il faudra bien qu'il fasse une fin.
Mais elle le fit taire. Elle se tourna vers le marquis. Mon ami, n'est-ce pas, confions-nous à Dieu. Il est impossible qu'il ne vienne pas à mon aide, car je ne l'ai jamais offensé.
Jamais, répondit le marquis, en mettant dans ce simple mot toute sa peine, toute sa tendresse, tout son culte pour cette femme qu'il adorait depuis tant d'années, sans qu'ils eussent péché ni l'un ni l'autre.
Un nouveau fidèle entrait, et la conversation changea. Monsieur de la Rombardière, vice-président à la cour, était un grand vieillard de 65 ans, maigre, chauve, rasé, ne portant que de minces favoris blancs. Et ses yeux gris, sa bouche pincée, très écartée du nez, son menton carré et têtu, donnaient à sa longue face une grande austérité. Le désespoir de sa vie était qu'affligé d'un zézément un peu enfantin, il n'avait pu, dans la magistrature debout, remplir son mérite, car il se piquait d'être un grand orateur. Ce tourment secret le rendait morose. En lui s'incarnait la vieille France royaliste et boudeuse, servant la République à contre-cœur. L'ancienne magistrature, sévère, fermée à toute évolution, à tout sens nouveau des choses et des êtres. Et, d'une petite noblesse de robe, légitimiste ralliée à l'orléanisme, il se croyait l'homme de sagesse et de logique dans ce salon, où il était très fier de rencontrer le marquis. On causa des derniers événements. Les conversations politiques, d'ailleurs, s'épuisaient vite, se résumaient dans l'amère condamnation des hommes et des faits, tous les trois se trouvant d'accord sur les abominations du régime républicain. Il n'était là que des ruines, les restes des vieux partis, réduits à l'impuissance presque absolue. Le marquis, lui, planait dans son intransigeance totale, fidèle à une morte, un des derniers de cette noblesse riche encore, haute et entêtée, qui mourait sur place. Le magistrat, qui avait au moins un prétendant, comptait sur un miracle, en démontrait la nécessité, si la France ne voulait tomber au plus grave malheur, à la disparition prochaine et complète. Et quant au général, il ne regrettait des deux empires que les grandes guerres. Il laissait de côté le maigre espoir d'une restauration bonapartiste pour déclarer qu'en ne s'en tenant pas aux armées impériales, qu'en décrétant le service obligatoire, la nation en armes, la République avait tué la guerre et tué la patrie. Lorsque le domestique vint demander à la comtesse si elle voulait bien recevoir M. l'abbé Froment, celle-ci parut un peu surprise. « Que me veut-il ? Faites entrer !» Elle était très pieuse, et elle l'avait connue dans des œuvres de charité, touchée de son zèle, édifiée par le renom de jeune saint que lui faisaient ses paroissiennes de Neuilly. Lui, tout à sa fièvre, se sentit intimidé dès le seuil du salon. D'abord, il n'y distingua rien. Il crut entrer dans un deuil, une ombre, où des formes semblaient se fondre, où des voix chuchotaient. Puis, lorsqu'il eut reconnu les personnes qui étaient là, il fut dépaysé davantage, en les trouvant si lointaines et si tristes, si à l'écart du monde d'où ils venaient, où ils retournaient. Et la comtesse l'ayant fait asseoir près d'elle, devant la cheminée, ce fut à voix basse qu'il lui conta l'histoire lamentable de la veuve, en lui demandant son appui pour le faire entrer à l'asile des invalides du travail. « Ah oui, cette œuvre dont mon fils a désiré que je fusse. Mais, monsieur l'abbé, je n'ai jamais mis les pieds aux séances du comité. comment voulez-vous que j'intervienne, n'ayant à coup sûr aucune influence ?»
De nouveau, les figures unies de Gérard et d'Ève venaient de se dresser devant elle, car la rencontre première des deux amants avait eu lieu à l'asile. Et déjà elle faiblissait, dans sa maternité toujours souffrante, bien qu'elle eût le regret d'avoir donné son nom pour une de ses entreprises charitables à grand tapage, dont elle réprouvait les abus intéressés.
« Madame, insista Pierre, il s'agit d'un pauvre vieillard qui meurt de faim. Ayez pitié, je vous en supplie. »
Bien que le prêtre eût parlé bas, le général s'approcha.
« C'est encore pour votre vieux révolutionnaire que vous courez ? Vous n'avez donc pas réussi près de l'administrateur ?
Dame, il est difficile de s'attendrir sur des gaillards qui, s'ils étaient les maîtres, nous balayeraient tous, comme ils disent. »
Monsieur de la Rombardière approuva d'un hochement du menton. Depuis quelque temps, il était hanté par le péril anarchiste. Et Pierre recommença son plaidoyer, navré et frémissant. Il dit l'affreuse misère, les logis sans nourriture, les femmes et les enfants grelottant de froid, les pères battant le boueux Paris d'hiver en quête d'un morceau de pain. Ce qu'il demandait, ce n'était qu'un mot sur une carte de visite, un mot bienveillant de la comtesse, qu'il porterait tout de suite à la baronne du Villard pour la décider à passer par-dessus les règlements. Et ses paroles, tremblantes de larmes étouffées, tombaient une à une dans le salon morne, comme venues de très loin, et se perdant dans un monde mort, sans écho désormais. Madame de Quinsac se tourna vers monsieur de Mourigny. Mais il semblait s'être désintéressé. Il regardait fixement le feu, de son air hautain d'étranger, indifférent aux choses et aux êtres, parmi lesquels une erreur des temps le forçait à vivre. Cependant, il releva la tête en sentant sur lui ce regard de la femme adorée, et leurs yeux se rencontrèrent avec une infinie douceur, la douceur si triste de leur héroïque tendresse. « Mon Dieu, dit-elle, je sais vos mérites, monsieur l'abbé, et je ne veux pas me refuser à une de vos bonnes œuvres. » Elle quitta le salon un moment, elle y revint, tenant une carte, où elle avait écrit qu'elle était de tout cœur avec monsieur l'abbé Froment, dans les démarches qu'il faisait. Et celui-ci la remercia, les mains frémissantes de gratitude, et il s'en alla ravi, comme s'il emportait un nouvel espoir de salut en sortant de ce salon, où, derrière lui, un flot d'ombre et de silence sembla retomber sur cette vieille dame et ses derniers fidèles au coin de leur feu. Tout un monde en train de disparaître. Dehors, Pierre remonta allègrement dans son fiacre après avoir donné l'adresse de la princesse de Harz, avenue Kléber. S'il obtenait de même une approbation de celle-ci, il ne doutait plus de réussir. Mais le pont de la Concorde était obstrué d'un tel encombrement que le cheval dut aller au pas. Et là, sur le trottoir, il revit Dutheil, qui, correct et charmant, le cigare aux lèvres, riait à la foule dans son aimable insouciance d'oiseau, heureux de retrouver le pavé sec et le ciel bleu au sortir de l'anxieuse séance de la chambre. En l'apercevant si gai, si triomphant, il eut une inspiration brusque. Il se dit qu'il devrait conquérir, mettre avec lui ce garçon, dont le rapport avait eu un effet si désastreux. Justement, la voiture ayant dû s'arrêter tout à fait, le député venait de le reconnaître et lui souriait. « Où allez-vous donc, monsieur Dutheil ?»«
Mais à côté, aux Champs-Élysées. » Je passe par là, et comme je désire vous entretenir un instant, vous seriez bien aimable de prendre place près de moi. Je vous poserai où vous voudrez.
Très volontiers, monsieur l'abbé. Ça ne vous gêne pas que j'achève mon cigare ?
Oh, pas du tout. Le fiacre se dégagea, traversa la place pour monter les Champs-Élysées. Et Pierre, songeant qu'il avait quelques minutes à peine, entreprit Dutheil sans tarder, prêt à lutter pour le convaincre. Il se souvenait de la sortie que le jeune homme avait faite contre la veuve chez le baron. Aussi fut-il étonné de l'entendre l'interrompre pour dire gentiment, la mine ragaillardie par le clair soleil qui se remettait à luire.
« Ah oui, votre vieil ivrogne !
Alors, vous n'avez donc pas arrangé son affaire avec Fonsègue ?
Et qu'est-ce que vous voulez, qu'on le fasse entrer là-bas aujourd'hui ?
Moi, vous savez, je ne m'y oppose pas. »
« Mais il y a votre rapport. »
« Mon rapport ! Oh, mon rapport ! Les questions changent selon les points de vue. Et si vous y tenez, à votre laveuve, je ne refuse pas de vous aider, moi. »
Pierre le regardait, saisi, très heureux au fond. Il n'eut plus même besoin de parler.
« Vous avez mal pris l'affaire, » continua Dutheil en se penchant d'un air de confidence. « Chez lui, c'est le baron qui est le maître, pour des raisons que vous sentez, que vous connaissez sans doute. La baronne fait tout ce qu'il demande, sans même discuter. Et ce matin, au lieu de vous lancer dans des courses inutiles, vous n'aviez qu'à vous faire appuyer par lui, d'autant plus qu'il paraissait dans d'excellentes dispositions. Aussitôt, elle aurait cédé. »
Il se mit à rire.
« Alors, vous ne savez pas ce que je vais faire ?»«
Eh bien, je vais gagner le baron à votre cause. »«
Oui, je me rends précisément dans une maison où il est, une maison où l'on est certain de le trouver tous les jours à cette heure-ci. » Et il riait plus haut.
« Enfin, la maison que vous n'ignorez peut-être pas non plus, monsieur l'abbé. Quand il est là, on est sûr qu'il ne refuse rien. Je vous promets de lui faire jurer que ce soir, il exigera de sa femme l'admission de votre homme. Seulement, il sera un peu tard. »
Puis, soudain frappé d'une idée, « Mais pourquoi ne venez-vous pas avec moi ? Vous obtenez un mot du baron ? Et tout de suite, sans perdre une minute, vous vous mettez à la recherche de la baronne.
Ah oui, la maison vous gêne un peu, je comprends. Voulez-vous n'y voir que le baron ?
Vous l'attendrez dans un petit salon du bas, je vous l'y amènerai. »
Cette proposition acheva de l'égayer, tandis que Pierre, ahuri, hésitait à l'idée d'être introduit de la sorte chez Sylviane Daunet. Ce n'était guère sa place. Pourtant, il serait allé chez le diable, et il y était allé parfois déjà, avec l'abbé Rose, dans l'espoir de soulager une misère. Dutheil, qui se méprenait, baissa encore la voix pour une suprême confidence.
« Vous savez qu'il a tout payé là-dedans.
Oh, vous pouvez venir sans crainte.
Mais certainement, je vais avec vous. »
dit le prêtre, qui ne put s'empêcher de sourire à son tour. Le petit hôtel de Sylviane Daunet, très luxueux, d'un luxe délicat et un peu galant de temple, était situé avenue d'Antin, près de l'avenue des Champs-Élysées. La prêtresse de ce sanctuaire, où les ors froids des vieilles dalmatiques luisaient sous le reflet mauve des vitraux, venait d'avoir 25 ans. Petite et mince, d'une beauté brune adorable. Et tout Paris connaissait son délicieux visage de vierge, le doux ovale allongé, le nez fin, la bouche petite, avec des joues candides et un menton naïf, sous les bandeaux de ses cheveux noirs, qu'elle portait épais et lourd, cachant le front bas. La raison de sa célébrité était précisément cet air étonné et joli, cette infinie pureté de ses yeux bleus, toute cette innocence pudique, quand elle voulait, faisant contraste avec l'abominable fille qu'elle était au fond,
de la perversité la plus monstrueuse, avouée, affichée, telle qu'il en pousse dans le terreau des grandes villes. On racontait sur ses goûts, sur ses fantaisies, des choses extraordinaires. Les uns la disaient fille d'une concierge, les autres d'un médecin. En tout cas, elle avait dû se faire une instruction et une éducation, car elle ne manquait, à l'occasion, ni d'esprit, ni de style, ni de tenue. Elle roulait dans les théâtres depuis 10 ans, applaudie pour sa beauté, et elle avait même fini par obtenir de gentils succès dans les rôles de jeunes filles très pures, de jeunes femmes aimantes et persécutées. Mais depuis qu'il était question de son entrée à la Comédie-Française pour y jouer le rôle de Pauline dans Polyeucte, des gens s'indignaient, d'autres s'égayaient, tellement l'idée paraissait saugrenue, attentatoire à la majesté de la tragédie classique. Elle, tranquille et têtue, voulait cette chose, et la voulait bien, certaine de l'obtenir, avec l'insolence de la fille à qui les hommes n'avaient jamais rien pu refuser. Ce jour-là, dès 3 heures, Gérard, qui ne savait comment tuer son temps avant d'aller attendre Ève rue Matignon, avait eu l'idée de monter patienter dans le voisinage chez Sylviane. Celle-ci était un ancien caprice. Il était resté un des intimes du petit hôtel, il s'y oubliait même encore parfois, quand la jolie fille s'ennuyait. Mais il venait de la trouver furieuse, et il était là, en simple ami, allongé dans un des profonds fauteuils du salon Vieillor, en train d'écouter sa plainte. Elle, debout, en toilette blanche, toute blanche, comme Ève était elle-même au déjeuner, parlait avec passion, achevait de le convaincre, gagnait à tant de jeunesse et de beauté, la comparant inconsciemment à l'autre, déjà là du rendez-vous qu'il attendait, et envahie d'une telle paresse morale et physique qu'il aurait préféré demeurer au fond de ce fauteuil.